Les balades de Christophe sur RCN, Christophe Dabesca.
Et nous reprenons nos balades dans les rues de Nancy. Et quand vous regardez bien les plaques sur les rues, bien vous voyez des noms. Et aujourd'hui, parmi les noms que tu as repérés, Christophe, le nom Dreyfus.
Ouais. Alors, salut patron.
Bonjour Christophe. Alors, Dreyfus, Alfred. Alfred Dreyfus, merci beaucoup. C'est un nom qui est connu de par l'affaire qu'on va rappeler dans quelques instants. Mais peut-être, on pourrait commencer par expliquer où est né et où, quand a commencé finalement la vie de ce cher Alfred.
Ah bah, le cher Alfred, il est né le 9 octobre 1859 à Mulhouse.
Bien.
Donc à cette époque-là, il était français.
Oui. Alors tu dis à cette époque-là, il était français, pourquoi ?
Ben parce que l'annexion de l'Alsace a eu lieu en 1870, reconnue en 1871 par le traité de Francfort.
D'accord. Donc, si je comprends bien, Alfred Dreyfus, né en 1859, donc il est français, il est alsacien.
Fier d'être français.
Fier d'être français. Et justement, en 1871, quand le traité de Francfort est signé, et on reconnaît effectivement que l'Alsace-Moselle sont allemands, qu'est-ce qui se passe ? Les gens sont forcément tous allemands ? Ils peuvent...
Non, ils peuvent quitter l'Alsace, ouais, sans rien emporter.
D'accord.
Sans rien emporter. Donc, pour que... Parce que le père de Dreyfus, Raphaël Dreyfus, était un industriel.
Ouais.
Il avait une filature à Mulhouse.
Ouais.
Et pour éviter que Mulhouse, enfin qu'il perde son usine, ils ont été obligés de laisser un enfant pour surveiller l'usine.
Donc,
c'était le frère aîné de Dreyfus.
Alors attends, qu'on comprenne bien. Donc effectivement, Alfred Dreyfus, il est issu d'une famille d'industriels.
D'industriels, oui.
Qui ont des usines à Mulhouse.
À Mulhouse.
Quand en 1871, alors d'abord pourquoi est-ce que l'Alsace-Moselle devienne allemande ? C'est quoi ? C'est Napoléon III, c'est ça qui...
Oui, c'est dû à la défaite de Napoléon III.
Ouais. Ouais. Et donc du coup, à ce moment-là, on peut décider de rester français, donc de quitter cette région qui devient allemande, à condition d'y laisser effectivement tout ce qu'on a.
C'est ça.
Donc ce que tu nous dis là, c'est que la famille Dreyfus décide de rester française, de quitter donc cette région, et donc c'est ce secteur allemand maintenant, mais laisse quand même de ses enfants sur place.
Laisse au moins un de ses enfants sur place. Ils ont choisi de laisser le frère aîné, Jacques Dreyfus.
D'accord. Qui va donc rester à Mulhouse.
Pour surveiller les usines et pour que les Allemands ne spolient pas déjà les usines.
Les usines. Ils partent où, cette famille Dreyfus, en France ?
Déjà, ils partent. Déjà, ils sont pendant une année à Bâle.
Ouais.
Et Alfred Dreyfus est envoyé à la Realschule, c'est le collège ou le lycée allemand.
Ouais.
Avec l'enseignement en allemand.
Ouais.
Mais Alfred Dreyfus, il supporte pas ça, il n'y arrive pas. Donc son père, Raphaël Dreyfus, décide de déménager à Paris.
D'accord.
Pour qu'il aille faire ses études à Paris.
Donc, toute la famille bascule de Bâle à Paris.
Voilà, c'est ça.
Et là, Alfred Dreyfus, il va être inscrit où ?
Dans différents collèges. On ne sait pas le nom du collège exactement.
D'accord, mais lui, il veut faire à ce moment-là, parce qu'on le connaît en tant que militaire, Dreyfus. C'est quoi ? C'était une volonté qu'il avait d'être militaire depuis petit ?
Depuis l'âge de 12 ans.
D'accord.
Parce qu'il a vu les Allemands arriver à Mulhouse et il n'a pas supporté ça.
Ok. Donc, il veut faire une carrière militaire, il va être envoyé dans des collèges
et lycées. Il va être envoyé dans des collèges et lycées dans Paris, mais il ne va pas supporter l'internat.
Parce qu'il est envoyé en internat.
Parce qu'il est envoyé en internat, oui. Il ne va pas supporter l'internat, donc il va passer son baccalauréat à Grenoble.
Mais tu m'avais expliqué, si ma mémoire est bonne, que avant de partir passer son bac à Grenoble, il a un peu quitté Paris, il a un peu vagabondé.
Oui, il a un peu vagabondé. Il est allé voir sa famille, sa sœur à Carpentras, par exemple. Il est retourné à Mulhouse aussi pour se familiariser un peu avec la direction des filatures, sait jamais. Hein.
Oui, qu'il puisse reprendre l'affaire familiale.
Ça peut
ouais.
toujours servir.
Ouais.
Mais il a toujours été attiré par le militaire, donc Il passe, il va, après son baccalauréat, il va aller à passer le concours d'entrée à Polytechnique.
D'accord. Et pourquoi Polytechnique ?
Parce que, donc, il va passer...
Attends, pardon, je voudrais revenir...
Vas-y, reviens.
On a oublié de reparler du bac, donc tu m'as dit, il passe quand même son bac à Grenoble.
À Grenoble.
Ouais.
Il fait une sorte de candidat libre et il fait le candidat libre, tu sais, t'es obligé de passer dans un endroit, même si t'es pas scolarisé, t'es obligé de passer le bac dans un endroit. Donc c'est à la fac de Grenoble qu'il va,
okay.
qu'il va aller.
Il obtient son bac
largement.
Et donc il décide de présenter sa candidature dans différentes écoles, dont Polytechnique.
Pourquoi Polytechnique?
Et alors pourquoi seulement à Polytechnique?
Parce que Polytechnique était plus ouvert aux Juifs que Saint-Cyr.
Donc là, si je comprends bien, on est déjà dans un contexte où les Juifs ont quelques difficultés dans en France.
C'est ça. Surtout dans l'armée, en fait. L'armée, Saint-Cyr est plus... Bon, c'est pas fermé, hein, c'est ouvert, mais bon, on te regarde avec plus de suspicion à Saint-Cyr.
Il y a une extrême droite qui est un peu puissante à ce moment-là.
Ah oui, l'extrême droite est très puissante. En témoigne le livre de Drummond,
oui.
qui va avoir une certaine importance dans l'affaire Dreyfus, après.
Ok. Alors, on va en parler de l'affaire Dreyfus, mais avant, donc il fait Polytechnique, il va rencontrer quelqu'un aussi.
Oui, il va rencontrer sa femme, Lucie Adamar,
ouais.
dont le berceau familial est à Metz.
D'accord.
Voilà. Et les parents de Lucie Adamar se sont mariés à Nancy.
Alors là, on commence à refaire un petit peu le lien avec Nancy,
voilà,
du coup.
Voilà, c'est ça. Mais ils sont jamais très loin de Nancy, puisque la sœur de Dreyfus va habiter à Bar-le-Duc, après avoir habité à Carpentras.
D'accord, donc on reste un peu dans cette région.
Donc voilà, on reste chez nous.
Donc, il rencontre cette femme, parallèlement, il réussit Polytechnique.
Parallèlement, il réussit Polytechnique, ce qui est très rare à l'époque du premier essai.
Ouais.
Il est très brillant.
Ouais.
Et c'est bien ce que l'état-major va lui reprocher, en fait.
Alors, il réussit Polytechnique. Quelle année on a à peu près quand il réussit Polytechnique?
Dans les années 1880.
Et après, il va faire quoi après Polytechnique, Dreyfus?
Après, il va être enseignant à Bourges.
Ok.
Avant de passer le concours qui va réussir brillamment pour l'école de guerre. Ça va durer 2 ans. Et il va, au début 1894, être stagiaire à l'Arche. L'Arche, c'est l'état-major. Et c'est à la suite de ce qu'il aura fait à l'état-major que l'affaire Dreyfus va démarrer.
Alors justement, si on en parle de Dreyfus, s'il est connu, c'est pour cette fameuse affaire Dreyfus.
Oui. Il n'y est pour rien.
Ah bah tu vas nous l'expliquer, mais c'est quoi cette affaire? Qu'est-ce qui se passe concrètement?
Eh ben, c'est-à-dire que une femme de ménage fait le ménage à l'ambassade d'Allemagne.
Ouais.
Elle récupère les poubelles qui sont données au colonel Henry,
ouais.
qui est le second du directeur de la section des statistiques.
Ouais.
Qui est ni plus ni moins que le contre-espionnage.
D'accord.
Voilà. Donc, ils vont découvrir le bordereau. C'est un Alsacien qui va découvrir le bordereau. D'ailleurs, ça va tourner en bataille d'Alsacien au début.
D'accord.
Voilà. C'est un Alsacien qui va découvrir le bordereau et il va l'envoyer au ministre qui s'appelle le général Mercier, qui, lui, se prend... Pour Napoléon, enfin pour un petit Napoléon républicain. Donc il veut être président de la République, en gros.
Ouais.
Parce qu'il a découvert que la politique c'était intéressant et qu'après l'armée, on pouvait aussi avoir un haut poste dans le civil. Quoi.
Alors ce bordereau et ces documents qui sont trouvés, qui sont envoyés,
oui.
pourquoi ils sont sur quels critères on les comment je vais dire on dit que c'est Dreyfus qui les a
Ah oui, alors parce que le général Mercier, enfin oui, le ministre de la guerre, le général Mercier, dit qu'il faut, qu'il faut trouver le traître.
Oui, ben, je me doute. Ouais, du coup, c'est un traître, ouais.
Donc, c'est un traître qui a écrit ça. Donc, si tu veux, ils vont chercher parmi les stagiaires. Et, coup de bol, un chef d'un département à l'état-major va croire reconnaître l'écriture de Dreyfus.
C'est comme ça que ça retombe sur lui.
Oui. Il est convoqué le 15 octobre 1894 au ministère sous prétexte d'une inspection.
Ouais.
En fait. Et Dupaty de Clam va lui faire écrire la lettre et va lui faire sous prétexte d'avoir mal à la main va lui faire écrire une lettre pour pouvoir comparer
les écritures.
Plus tard les écritures.
Ouais.
Voilà.
Et donc, on croit reconnaître celle de Dreyfus.
Donc, il est traduit en conseil de guerre en décembre 1894.
Et donc, tu nous as dit, d'entrée de jeu, il n'était pas coupable.
Ah, il y est pour rien. Il y est pour rien.
Mais il va quand même être condamné.
Puisque l'état-major va truquer... Le verdict, enfin bref.
Et pourquoi est-ce qu'on se reporte sur lui? Est-ce qu'on sait qui était le vrai coupable?
Oui, ah oui, c'était le vrai coupable, il s'appelle Monsieur Esterhazy.
Ouais.
C'est un major dans l'armée, pas très apprécié de là où il est.
Ouais.
Coureur de femmes.
D'accord.
Et il avait besoin d'argent, quoi, donc il vendait. Des informations aux plus offrants.
D'accord. Et alors, est-ce que, parce qu'on a parlé un peu du contexte contre les Juifs en France, est-ce que ça explique que Dreyfus était finalement le coupable idéal?
Ah bah, ça explique, oui, parce qu'il a été le coupable idéal. Il faut savoir qu'il a été mis aux arrêts le 15 octobre, mais que l'affaire Dreyfus en elle-même éclate le 29 octobre. Par un article paru dans la Libre Parole, un journal d'extrême droite, commandé par Édouard Drummond. C'est lui le patron de ce journal-là.
D'accord.
Et donc, il dit que l'état-major a arrêté un espion et qu'il est juif et qu'il s'appelle Alfred Dreyfus. Donc, à partir de ce moment-là, l'armée, elle est obligée de communiquer.
Ok.
Voilà. Et tout part de là.
Le procès se tient à huis clos.
Mais ils n'ont tellement rien dans le... Dans le...
Dans le dossier.
Dans le dossier pour... Donc, l'avocat Dreyfus, M. Demange, réussit... peu ou prou a prouvé presque son innocence.
Ouais.
Mais l'armée ne peut pas perdre la face, donc
ouais.
Ils interviennent, ils envoient des autres papiers au moment des délibérations, ce qui est complètement interdit par la loi, à cette époque-là aussi.
Ouais.
Donc Dreyfus est condamné à la dégradation et à la déportation.
Donc dégradation, ça veut dire quoi?
Eh bien, que l'armée lui enlève tous ses grades.
Ok.
Par une cérémonie.
Et cette cérémonie, elle consiste en quoi, alors?
Eh ben, alors, ils vont déjà casser son épée.
De polytechnicien
et enlever ses galons. Voilà. Ça va se dérouler le 5 janvier 1895.
Et tu disais, il va être ensuite condamné à de la prison et déporté.
Déporté, oui. Il n'est pas condamné à mort parce que la Deuxième République interdit qu'on condamne à mort les déportés politiques.
D'accord.
Dreyfus est peu ou prou un déporté politique, du coup.
Mais alors, du coup, il va être en prison, il va aller où?
Il va d'abord aller à La Rochelle, ensuite à l'île de Ré, et il va atterrir au mois de mars 1895 à l'île du Diable. C'est à Kourou, en Guyane.
Il est condamné au bagne.
Il faut savoir que l'espérance de vie d'une bagne n'excède pas 5 ans.
Ouais. On va voir dans un instant justement comment Dreyfus s'en sort dans tout ça.
C'est ça.
Et tout ce qui va se passer en France à cette occasion-là. Je propose qu'on écoute tout de suite un titre, un petit peu de musique, et on revient dans un instant pour raconter comment justement, effectivement, la famille de Dreyfus, mais pas que, beaucoup de gens se sont mobilisés et vont permettre finalement à Alfred Dreyfus de retrouver une place dans notre société.
C'est ça.
On écoute quoi ?
La moitié d'une place.
La moitié d'une place, tu nous diras ça dans un instant.
Eagles of Death Metal.
C'est ce qu'on écoute maintenant sur RCN.
Corner of Main Street, and the light.
Christophe Dabesca vous emmène en balade sur RCN.
Et aujourd'hui, en se promenant dans les rues de Nancy, on lève les yeux, on voit la plaque Alfred Dreyfus. Il y a quelques instants, on parlait de cette affaire, hein, Dreyfus. On racontait en quoi cette affaire était née, comment elle était née, du document trouvé dans une poubelle par une femme de ménage. Hein.
C'est ça.
Et avec l'écriture soi-disant reconnue d'Alfred Dreyfus.
C'est ça.
Bon, il est condamné, on le disait il y a quelques instants, il a été condamné à la prison, à la déportation, il a été envoyé au bagne, en passant d'abord par Saint-Martin-de-Ré, puis ensuite en allant en Guyane. Sauf que l'affaire ne s'arrête pas là, Christophe,
non,
puisque
non,
la famille a décidé de ne pas laisser cette affaire sans que, voilà, on essaie de rétablir une vérité.
Oui. Alors, jusqu'en septembre 1896, on n'entend plus trop parler de Dreyfus.
Ouais.
Alors, Mathieu Dreyfus a une idée que je trouve très bonne. Il a fait croire que Alfred Dreyfus s'était évadé de l'île du bagne.
Et pourquoi il a fait ça et à quoi ça sert ?
Eh ben pour remettre Alfred Dreyfus dans...
À la une de l'actualité ?
À la une de l'actualité, oui.
Ok, et pour faire revenir l'histoire.
Je précise que quand même c'était faux, parce qu'on pouvait pas s'évader de l'île du diable.
Oui, bien
Mais
sûr.
Mais néanmoins, Dreyfus a quand même été attaché au lit.
Ah oui, de peur que. Bon,
voilà.
Donc effectivement, tu le disais, Mathieu Dreyfus, hein, c'est ça.
C'est ça. Le frère de Dreyfus
décide. Un des frères décide donc de reparler de l'affaire en disant qu'il se serait évadé. Qu'est-ce qui va se passer d'autre pour que cette affaire remonte dans l'actualité et finalement génère ce dont on va parler dans quelques instants, une mobilisation d'un certain nombre d'intellectuels, de journalistes, même de politiques. Qu'est-ce qui va être mis en place pour que l'affaire remonte ?
Alors, l'affaire va remonter parce que Mathieu Dreyfus va prendre contact avec un journaliste qui s'appelle Bertrand Lazare, qui écrit une brochure en 1897 sur l'affaire Dreyfus.
Ouais.
Ensuite, monsieur le colonel Picard, qui a découvert que... qui est un colonel de l'armée, qui a découvert... en étant patron des statistiques du réseau d'espionnage, il a découvert que le bordereau était faux, et ils ont découvert que c'était M. Esterhazy qui avait écrit
le bordereau.
Le bordereau. Ouais. Mais l'état-major, ne voulant pas reconnaître son erreur, envoie le colonel Picard en Tunisie.
D'accord,
avant de l'envoyer en prison.
C'est commode.
Donc il commence à avoir peur de la peur de sa vie. Donc en 1898, il décide de tout balancer à la presse. Et voilà.
Et c'est là que ça arrive dans les oreilles, dans les mains.
Dans les mains de Zola.
Et d'un certain nombre d'intellectuels Zola.
Et d'un certain nombre d'intellectuels après.
Ouais.
Après que Mathieu Dreyfus ait essayé, par l'intermédiaire de son avocat, parce qu'il l'avait déjà convaincu, mais par la voie politique.
Ouais.
Il l'avait convaincu, le vice-président du Sénat, qui politiquement ne pouvait rien faire, puisque la Chambre avait refusé de revenir sur le procès Dreyfus.
D'accord. Alors Zola, revenons à Zola, maintenant, parce que Zola, il est connu pour cette fameuse lettre, le J'accuse.
Le J'accuse, mais il avait écrit déjà une lettre dans le Figaro un peu avant.
D'accord.
Un article qui commençait à pratiquement tout balancer, mais il a écrit J'accuse parce qu'il était en colère par rapport au résultat du procès du colonel Esterhazy, qui avait quand même été jugé, mais acquitté.
D'accord.
Voilà. Donc, dans la nuit, il a écrit cette lettre-là, qu'il a envoyée à l'Aurore, journal dirigé par Clémenceau, qui le publie, et voilà.
Et c'est comme ça que toute l'affaire finalement ressort.
Que toute l'affaire ressort. Et ça permet à Louise Dreyfus de demander un procès en révision.
Alors, on va reparler du procès en révision, mais je crois que Zola, il a de fait aussi de son j'accuse et de ça, il va vivre aussi un procès en justice.
Ah oui, il va vivre un procès en justice, oui. En 98.
Ouais.
Au mois de février, je crois, 1980.
1898, ouais.
Pardon.
Qui va le voir condamné?
Il va le voir condamné, mais il le savait.
Ouais.
Il le savait qu'il allait être condamné, mais contrairement au conseil de guerre, le procès civil se déroule en catimini, mais en public.
Ouais.
Donc il va sortir vraiment tout ce qui s'est passé, tous les faux qui ont été faits à ce moment-là, en fait. Donc, il va prendre un an de prison.
Et le but pour Zola, c'est finalement que Dreyfus, dans un procès en révision, procès se fasse non plus militairement, mais en public.
C'est ça.
Donc il va mobiliser les intellectuels.
Il va mobiliser les intellectuels de Jaurès, qui va batailler au Parlement,
ouais.
Notamment en disant que le ministre de la guerre, M. Cavagnac, dit des choses fausses, hein, et voilà. Donc le gouvernement, il ne peut faire que faire un procès en révision qui aura lieu à Rennes en 98.
Et il va s'y passer quoi dans ce procès en révision?
À ton avis, il va Dreyfus va être quand même condamné à 10 ans de prison.
Malgré tout.
Malgré tout. Parce que l'armée ne veut pas perdre
la face,
voilà. Mmh.
Donc, il va perdre, mais il va quand même être. Il va quand même pouvoir retrouver une vie un peu normale. Qu'est-ce qui va se passer pour Dreyfus ensuite?
Le procès a lieu le 7 août 1899 à Rennes.
Ok.
Et il va être condamné à 10 ans de prison. Mais le président Émile Loubet va le gracier.
Ah, voilà.
Sous les ordres du président du conseil, Waldeck Rousseau, qui, hasard de l'histoire, était le premier avocat contacté par Mathieu Dreyfus pour défendre son frère bien avant. Mais Waldeck Rousseau avait jugé ça trop dangereux et avait envoyé le nom de son confrère, Monsieur Demange. Voilà.
Bon, et donc finalement, Alfred Dreyfus va être gracié.
Il va être gracié, mais il va être gracié en 1906. Moitié gracié, parce que finalement, il va rester qu'un an dans l'armée, mais il va faire la guerre 14-18.
Alors, j'allais te dire, c'est ça, il va continuer sa vie, du coup, il va retourner dans l'armée.
Il va faire la guerre 14-18, et il va participer à la bataille de Verdun en 1916, et le chemin des dames, avant de mourir en 1935.
Bon, finalement, Alfred Dreyfus sera resté quand même dans l'armée, pas tant rancunier que ça, malgré tout ce qu'il aura vécu.
En tout cas, il croit toujours en l'armée et en la France. Il est très patriotique.
Ouais.
Oui. Il croit en l'armée et en la France, oui. Ce qui est bien.
Bon, on a appris plein de choses aujourd'hui sur Alfred Dreyfus. Il y aurait sans doute encore des tas de choses à raconter. Oula. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on comprend aussi, on a compris aujourd'hui le lien de filiation avec Nancy de par les parents de sa femme à Alfred Dreyfus. Bon, il y aurait eu sa plaque sans doute, mais voilà, il y a aussi la plaque du nom Dreyfus à Nancy. Elle a ce petit truc en plus que dans la famille, de près ou de loin, il y a un lien avec Nancy, quoi.
Dans une prochaine émission, je dirais ce que l'affaire Dreyfus a engendré à Nancy.
Et bah, ce sera
parce qu'il y a Barès et tout ça.
Et bah, ce sera avec grand plaisir, Christophe. Voilà. Merci pour toutes ces informations
mais de
et tout
rien,
ce que tu nous as apporté.
J'espère avoir été compréhensible.
Mais c'est le cas, Christophe. On se retrouve prochainement pour une prochaine balade tous ensemble.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Merci.